Les voix de femmes.
Des choses à jacques.
Голос женщин.
صدای زنان.
Генерас муни.
Мусол лала ден ди.
Une conversation libre sur les conditions de la femme, entre femmes de ici et d'ailleurs. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur le Studio ZEF avec Lisa Karimi et notre émission radio Les Voix de Femmes. Encore sur la table, on est avec les femmes de différentes origines. Alice, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Laetitia.
Bonjour.
On a deux femmes extraordinaires ici, donc on va discuter par rapport.
J'aime bien quand tu dis ça, Lisa. Moi, je me sens extraordinaire une fois par mois.
C'est gentil.
C'est vraiment ça. Donc, j'ai choisi aujourd'hui un sujet vraiment libre de parler par rapport à Afghanistan et aussi de parler par rapport à Congolaise et parler avec, par rapport à France. Et bien sûr, on va aborder les sujets au niveau de l'intégration, on va aborder les sujets comme Laetitia, il y a actuellement sur la procédure de demandeur d'asile, donc on va vous discuter un peu ça. Et surtout, vous allez avoir quelques informations par rapport aux personnes qui habitent là actuellement en Afghanistan. Donc j'ai essayé de parler avec les gens là-bas, donc on va écouter leur voix et on va discuter aussi un peu leur situation. Donc tout d'abord, donc, si Laetitia, tu peux nous dire un peu plus par rapport à toi.
Je suis Laetitia, je suis en demande d'asile. J'ai 46 ans, mère de 5 enfants.
D'accord. Et tes enfants sont là, ici, en France ?
En France, j'ai 3 enfants et j'ai 2 enfants en Afrique.
D'accord. Ils ont resté en Afrique. Tu veux partager pourquoi ils ont resté en Afrique ou on laisse ça aborder après. Bah, on laisse ça. Ok. Bah, dis-moi, depuis quand tu es en France ?
Je suis en France depuis octobre 2023.
D'accord. Et actuellement, tu es dans quelle procédure ?
Actuellement, je suis en demande d'asile, en procédure de la CNDA.
D'accord. Et on a discuté avant notre émission, on a discuté un peu au niveau de situation ici que tu habites en France. Si tu peux nous élaborer un peu ce sujet-là, comment tu vis ici en France, qu'est-ce que se passe en fait au niveau de ton séjour, au niveau de ton accès aux droits.
Bon, au niveau du séjour, je peux dire que mon séjour se passe bien, sauf que j'ai rencontré beaucoup de difficultés en ce qui concerne ma maladie. Et ça n'a pas été facile de combiner une demande d'asile, la maladie et les enfants. Mais comme je suis une femme battante, j'ai essayé de me battre avec, mais ça n'a pas été vraiment du tout facile. Et là, on essaie de faire avec.
D'accord. Et j'aime bien cette mot battant. Souvent, les gens qui sont viennent là, vraiment, qui ont aimerait parler, c'est quelqu'un qui se battre pour leurs droits. Mais je ne sais pas si tu veux nous partager un peu au niveau de l'histoire que tu as vécue, ton histoire personnelle, et pourquoi tu as choisi France, comment tu es venue ici, si tu veux partager ce sujet avec nous.
Oui, effectivement. J'ai quitté mon pays par rapport à mon orientation sexuelle, qui est d'ailleurs un tabou chez nous, qui n'est pas accepté par la société. Donc, par rapport à tout ce que j'ai subi, des menaces, des persécutions, des humiliations, j'étais à bout, j'ai pas supporté. Et puis, j'ai décidé d'aller plus loin. Et mon chemin m'a emmené vers la France.
D'accord. Avec donc, c'est la société que tu as poussé vraiment de quitter ton propre pays. Tu n'étais pas acceptée dans ton société. C'était aussi un problème en famille ou...
Étant dans une famille chrétienne, la famille chrétienne, c'est, chez nous, c'est un tabou et que l'homosexualité n'est pas permis. On nous considère comme des démons en personne. Donc, j'ai pas été acceptée par mes parents. Du coup, j'ai quitté mon pays.
D'accord. Et tu t'as trouvé dans ces conditions depuis, j'imagine, quand tu étais très jeune ou c'était après que tu commençais à comprendre que tu es vraiment homosexuel ?
Oui, depuis l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à sentir l'attirance envers des filles. Mais à cet âge, je ne pouvais pas imaginer de quoi il s'agissait. Et à l'âge de 15 ans, j'ai senti l'attirance envers ma copine, qui était sous la douche d'ailleurs. Il fallait qu'on aille à l'école, donc je suis passée la chercher chez elle. Elle était sous la douche. Quand je l'ai vue sous la douche, j'ai senti mon cœur vibrer. J'ai senti des sensations étranges dans mon corps. Et j'ai eu peur. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je ressens? Après, nous sommes allés à l'école avec elle. Depuis ce jour-là, j'ai été très jalouse. Je ne voulais pas que les gens s'approchent d'elle. Je la protégeais. J'étais toujours à ses côtés. Donc, le fait de la voir, moi, ça me faisait énormément plaisir. Et j'étais vraiment attirée par elle. Mais je n'avais pas le courage de dire un mot, puisque je ne savais pas d'abord que je pouvais l'aborder. Donc, je la regardais juste. Et au moment où j'ai essayé de la toucher, quelques temps plus tard, la copine m'a repoussée et elle m'a réclamée chez ses parents qui m'ont tapée, qui m'ont humiliée. Et je n'ai pas supporté. J'avais fui l'école. Je ne partais plus à l'école. Donc, je sortais de chez moi à la maison. Les parents se disaient que je suis partie à l'école. Je m'habille normalement comme un élève qui va à l'école. Et je me mets juste en face de l'école, jouer au jeu avec les garçons. Mais je ne pouvais pas rentrer à l'école parce que j'avais honte qu'elle me dénonce et j'avais peur qu'après avoir dénoncé ce qui devait arriver, puisque je savais déjà que chez nous, c'est un tabou. Donc, j'ai perdu l'année scolaire et on m'a renvoyée de l'école, on m'a changée d'école. Je suis allée dans une autre école et j'ai perdu ma copine de vue.
Mais bravo et merci beaucoup pour ton confiance et bravo que tu, brièvement, là actuellement, tu parles par rapport à tout et c'est vraiment chouette. Mais dis-nous, quand tu t'as trouvé dans cette condition-là, que tu sentais honte vis-à-vis de les choses que tu aimerais faire en fait, est-ce que tu avais l'impression que tu es vraiment isolé, tu es à côté, donc tu n'appartiens pas à cette société-là?
En fait, malgré ce qui s'était passé, je n'avais pas mis l'attirance des femmes de côté. Parce que pour moi, je me disais que c'est quelque chose qui était en moi. Donc, je n'arrivais pas à m'éloigner de cette attirance. Et j'étais toujours attirée par les femmes, mais j'avais peur d'aborder une femme.
Mais tu étais quand même obligée à se marier. C'était pour la société, j'imagine.
Oui, je me suis mariée. Je me suis mariée parce que ce qui fait le bonheur de parents, c'est de voir sa fille mariée. Donc, il fallait que je me marie pour faire plaisir à mes parents. Et je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mais malgré le mariage, malgré que j'étais dans un foyer, il y a quelque chose qui manquait. Donc, côté sentimental, pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc, du coup, j'ai beau essayer pendant 10 ans, une dizaine d'années, je n'ai pas touché aux femmes. Je suis restée dans mon foyer, mais... je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas jusqu'à ce que je voie une autre fille qui était en coup de cœur, que je n'ai pas pu résister et je l'ai abordée et voilà.
Et donc tu pouvais continuer après tout ça, tes études ou tu as arrêté totalement tout ça?
Non, je n'avais pas arrêté les études. Après cela, j'étais encore là à l'école, on m'avait changé d'école. Après, quand je suis arrivée en troisième, j'avais changé d'école. Au lycée, comme je marchais avec les garçons, donc les amis garçons savaient que j'étais encore vierge. Et tout, ça parlait, des autres se moquaient de moi, mais comment tu es comme un gars? Parce que j'étais vraiment un garçon raté. J'avais toute la forme d'un garçon.
On dit un garçon manqué.
Imaginez qu'un garçon manqué, voilà, merci. Vous ne pouvez pas imaginer que j'étais une fille. Et de surcroît que je n'avais pas... Les seins, ça s'était évolué un peu en retard parce que j'étais très chétif, j'étais très laide, donc j'étais pas belle ni attirante, donc je n'avais pas de forme d'une femme. Donc, pour qu'un homme se rapproche de moi, c'était compliqué. Et moi, quand je grandissais, j'étais fière d'être ce que j'étais. Je n'avais pas de complexe d'être un garçon manqué. Mais c'est quand je suis arrivée au lycée, je me gênais. Je me gênais parce que quand je voyais les copines je sentais que j'étais différente d'eux. Et moi, je me gênais de les voir, de me sentir différente d'eux.
Mm-hmm.
Jusqu'à ce que je sois violée par un ami, qui était un ami à moi.
Mm-hmm. Oui, je comprends. Merci encore pour ton confiance, surtout Laetitia.
Qui était un ami à moi.
Mm-hmm.
Quand je sortais avec les amis, normalement, à la fin de la soirée ou de la sortie, il y avait toujours quelqu'un qui m'accompagnait. Mm-hmm. Parce qu'il ne pouvait pas me laisser seule rentrer. Et ce dernier m'a accompagnée, mais arrivant en route, on avait bu un verre de plus. Et il m'a proposé de passer chez un ami pour prendre le jus afin de se dessouler un tout petit peu. Et ce jus n'était pas un jus. Il avait mis des substances, ça m'a endormi. Il a profité d'abuser de moi. Mm-hmm. Et c'est là où ma vie a commencé à être gâté.
Ouais, c'est vraiment un sujet très compliqué. Je trouve que bien comme ça, il faut parler par rapport à ça. Je trouve que ça arrive souvent et ça existe aujourd'hui aussi. Ça existe partout dans le monde, mais parce qu'il y a certains qui ont honte de parler et certains qui ont peur de parler et qu'on n'arrive pas à éviter ce genre de choses. Surtout, il faut donner les informations. Donc, bravo Laetitia que tu parles de ça. En fait, tu donnes vraiment une éducation à les autres. Tu donnes les informations que les autres ils comprennent que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Et surtout quand on est jeune, on peut y aller et après on ne sait pas qu'est-ce que va arriver en fait.
Mais est-ce qu'il y a des associations vers qui se tourner au Congo, Laetitia? Je ne sais pas si vous étiez dans une grande ville ou...
Oui, j'étais dans une grande ville.
Est-ce qu'il y a du coup des associations type planning familial comme en France vers qui se tourner quand ce genre de choses arrive?
Normalement, oui, il y a des plannings familiales, mais pas pour les homosexuels.
Mmh. Il y a c'est-à-dire qu'il y a une distinction de fait à l'entrée. Si vous êtes homosexuel, on ne vous accepte pas, c'est ça ?
Déjà, de toi-même, tu n'auras pas le courage d'aller voir des autorités, parce que ça sera difficile qu'on te protège.
Mmh. Et pourquoi ?
En fait, chez nous, l'homosexuel n'est pas permis. Mmh. Officiellement, ils disent que non, l'homosexuel est permis et tout, mais je trouve que c'est officieuse.
Mmh.
Parce que la réalité est qu'on est rejeté par la société.
Mmh.
Aujourd'hui, même si le gouvernement peut dire que c'est accepté, mais nous qui sommes nés dans des familles chrétiennes, croyants, nos parents n'acceptent pas parce que c'est une honte. Mmh. C'est un démon qui vit dans la famille. Donc, c'est une honte de voir ton enfant être gay ou lesbienne. C'est quelque chose que les parents n'acceptent pas.
Et qu'est-ce qu'ils donnent comme raison?
Bon, pour eux, ils disent que nous sommes des Bantous. Ça, c'est la culture des Blancs.
Mm-hmm.
Donc, une femme doit vivre avec une femme et non une femme. Une femme doit vivre avec un homme et non une femme avec une femme.
Mm-hmm.
Pour eux, c'est Sodome et Gomorre. Donc, c'est un tabou, en fait. C'est un démon.
Okay.
C'est inhumain, le fait de vivre avec une autre... une personne de même sexe.
Mmh. Et tu vois, Alice, il parle de... c'est une culture de blanc. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça?
Ce qui me frappe, c'est que très récemment, je travaillais sur le témoignage d'une jeune femme russe, homosexuelle, donc la communauté homosexuelle LGBT, parce que pas que trans, voilà, est extrêmement malmenée en Russie, hein, ils sont considérés comme des terroristes. Et là où ça me frappe, c'est qu'elle me disait que les médias russes disent que 90% des Européens sont gays.
Mmh.
Et donc, c'est comme si c'était en effet le vice des Blancs, des Européens. Alors, je ne sais pas, quand ils disent blanc au Congo, je ne sais pas, parce que les Russes sont blancs aussi, mais eux, c'est les Européens qui donc amènent ce vice. Hein, 90%, comme elle dit, c'est juste dingue de croire un truc pareil.
Mmh.
Et donc là, c'est les Blancs qui sont montrés du doigt. C'est comme si vous étiez viciés par les Blancs. Enfin, je me trompe ou c'est ça, Laetitia?
Non, quand je parle des Blancs, donc je vise les Européens.
Ouais.
Donc,
c'est pareil.
C'est pas une culture africaine, c'est une culture des Européens. Pour nous, les Africains, étant les Bantous, on ne doit pas faire. C'est, pour eux, c'est une pratique. C'est un secte. Mais or qu'on ne choisit pas d'être gay ou lesbienne. Moi, je crois que c'est inné. C'est quelque chose qu'on ne devient pas, mais c'est quelque chose qui est en soi. Donc, c'est difficile de changer une personne de cette vie-là.
Et quand il dit que c'est une culture de l'Européen, c'est une culture blanche, mais comment vous avez appris cette culture-là? Est-ce qu'il vous interdit, par exemple, regarder quelque chose, par exemple, dans mon pays d'origine? Normalement, pour qu'on ne prenne pas les cultures de différents pays, ben, on interdit, par exemple, les gens à regarder télé, écouter les musiques, écouter les radios, ou voir les sites internet. Donc, en Congo, ça se passe comment, en fait? Est-ce qu'il y a interdiction d'apprendre les cultures blanches?
Non, ça, c'est pas interdit. On regarde la télé, on regarde l'Internet, on vit normalement. Mais sauf que le fait de coucher de deux personnes de même sexe, ça, c'est un tabou. Ça ne passe pas.
D'accord. Et donc, comme tu dis, c'est un démon qui vit dans la maison, quoi.
Oui.
Donc, il faut y jouer. Et donc, à partir du moment que tu es ici en France, est-ce que là actuellement tu t'exprimes très bien, mais dis-nous, est-ce que tu trouvais un peu de problème au niveau de société dans laquelle tu habites là actuellement, au niveau de centre, surtout dans les centres que tu habites, j'imagine il y a aussi les personnes de différentes origines, est-ce que tu racontes les soucis par rapport à ton homosexualité ou pas?
Non, moi je trouve qu'en France on ne juge pas, en France on est libre de faire notre choix. On est libre d'être ce qu'on est. D'ailleurs, quand je suis arrivée, je n'avais pas le courage de m'exprimer. Je n'avais pas le courage de dire que non, je suis homosexuelle. Non, voilà. Pour moi, c'était une honte. Et parce que j'avais cette culture de chez moi. Mais depuis que je fréquente les centres LGBT, je fréquente les gens qui sont pareils que moi, ça me donne la force. Et je me dis que je ne suis pas seule, c'est normal. Et que je trouve que je suis libre, je peux vivre ce que je veux.
Et tu te sens en sécurité ici?
Exactement, en France, je me sens en sécurité.
Mais dis-nous, Alice, comme Laetitia elle a dit qu'ici en France, les gens ne jugent pas. Est-ce que c'est la vérité de société vraiment qui ne juge pas homosexualité ou...
Alors j'aimerais dire que oui, on ne juge pas. On a des lois qui nous protègent. Et je pense que, voilà, il faut s'appuyer là-dessus. Je pense que l'homosexualité, il y a eu une grosse progression en France, évidemment, et heureusement, et notamment avec la mise en place du mariage pour tous. Ça, je pense, permis vraiment d'officialiser et de dire les homosexuels ont le droit de se marier une fois pour toutes, ils ont les mêmes droits que les hétéros, et on discute pas. Voilà, c'est comme ça. Mais quand il y a eu la mise en place du mariage homosexuel, il y a eu beaucoup de manifestations contre. Et derrière, beaucoup de catholiques. Attention, parce que je ne voudrais pas mettre tous les catholiques dans le même panier, mais des gens un peu extrémistes qui considéraient que non.
Comme voilà. Dans toutes les régions.
Voilà. Et que le mariage était réservé aux hétéros, point. Mais je pense que la mise en place du mariage pour tous, déjà il y avait eu le Pax, ça a permis de reconnaître officiellement des couples, et donc ça a permis d'asseoir ce fait qui, je suis d'accord avec vous Laetitia, on ne le choisit pas. C'est inné, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, les thérapies de conversion, je n'ai pas de date là, mais ce n'est pas si vieux. On faisait des thérapies de conversion pour changer l'orientation
pour
sexuelle.
Pour dire que pas tant ces problèmes mentaux, comme c'est actuellement en Russie en fait.
Mais bien sûr. Et moi, je peux juste témoigner d'un ami dont le frère était homosexuel, donc quelqu'un qui est né dans les années 70, et ses parents l'avaient chassé. Enfin, il n'avait pas chassé, mais ses parents étaient fâchés avec lui.
Ouais.
Voilà. Parce que ce n'était pas possible. Donc, évidemment, on a des lois. Et par contre, à la différence, je pense, de lois comme au Congo ou comme au Cameroun, où j'ai entendu dire aussi qu'officiellement l'homosexualité est acceptée, mais on va dire que la culture fait qu'on peut lyncher un homosexuel et puis personne ne dira rien. Nous, en France, on ne laissera pas faire. Et les crimes homophobes sont sont vraiment jugés, sont passibles de très lourdes peines. Mais j'ai vu... Et j'ai été extrêmement choquée il y a quelques années dans la commune où habitent mes parents. On est à côté de Nantes, donc plutôt gros département, on va dire, on n'est pas loin de tout. J'ai vu des tags sur une maison à caractère homophobe.
Okay.
Et là, j'avoue que je n'en suis pas revenue parce que c'était, voilà, c'était à 700 mètres ou peut-être 1 km, je ne sais pas, d'où habitent mes parents. Je dis, mais comment c'est possible? Ouais. Et je vous dis ça, voilà, si c'est 2023, 2024, c'est vraiment récent.
C'est pas trop, c'est vraiment récent.
Récemment, une enseignante s'est suicidée parce qu'elle était harcelée en raison de son homosexualité dans, dans un village. Donc voilà, c'est malheureusement... il y a encore des gens qui sont contre, il y a encore des gens qui nous empêchent de vivre. Mais par contre, ces crimes-là sont jugés et réellement jugés. Nous, on n'a pas la coutume, on n'a pas le fait de dire oh bah oui, mais comme voilà, on va laisser passer ça. Non.
Il faut vraiment arrêter. Et donc, si on passe d'autre côté, en fait, ici, tu as vu que là, actuellement, ça existe aussi. Ça reste pas totalement clair pour tout le monde. Ça reste un peu tabou partout. J'imagine que c'est partout, le monde, en fait. Ça n'est pas devenu assez normal, surtout comme en Russie, que tu dis que c'est vraiment comme terroriste. Et c'est vraiment ça. Et parfois, j'ai attendu aussi politiquement que les gens disent que en fait c'est culture blanc et en plus c'est une stratégie. C'est une stratégie qui est mise en place, justement, donner une nouvelle idéologie pour l'Ouest, quoi. Et ça pose beaucoup de problèmes, là, actuellement aussi, au niveau de personnes qui n'ont vraiment pas ni problème mental. Ils ont né avec ça, donc c'est leur sentiment. Et d'abord, je n'ai pas, là, actuellement, je ne peux pas vous dire exactement ce que passe en Afghanistan, mais vous voyez, il y a beaucoup d'homosexuels en Afghanistan, là, actuellement. Et ça a devenu... C'est pas récent. Ça a existé depuis tout le temps, mais par contre, pour nous, homosexualité, c'est crime, vraiment. Là, actuellement, les personnes qui peuvent être déjà pensées de ça, ben, il va être jugé, il va être pas jugé justement par les gens, mais il va être tué vraiment par la loi, quoi. C'est interdit à ces niveaux. Donc, ça reste toujours un gros travail à faire dans tous les pays. Mais dis-nous, Laetitia, par rapport à ta culture, en fait, en ton pays d'origine, en gros, si, par exemple, comme une femme, il regarde comment une femme dans la société, sans être homosexuel, sans être appartient à quelques groupes, mais vraiment comme une femme.
Bon, ce que je peux dire, à l'époque, la femme, c'était quelqu'un qui était soumise. Donc la femme, c'est quelqu'un qui devait rester à la maison pour les travaux ménagers, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de son mari. Mais actuellement, les femmes se battent pour l'égalité entre l'homme et la femme. Donc là, actuellement, dans mon pays, la femme travaille. Il y a des ministres femmes.
D'accord.
Il y a des députés femmes. Au Parlement, il y a des femmes, il y a des hommes. Donc, vraiment, la femme se bat pour qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme.
Est-ce que c'est récent ou...
Bon, ça date pas de très, très longtemps par rapport à l'époque de nos grands-parents. C'était pas le cas. Mais d'accord. Actuellement, la femme va à l'école, elle a des diplômes comme les hommes. Il peut être licencié, gradué, il peut avoir tous les diplômes qu'il faut, sans limite.
D'accord. Et ça reste dans tous les pays ou ça reste vraiment dans les grandes villes ou les villes très importantes?
C'est dans tout le pays. Ça dépend de l'éducation que vous avez reçue de vos parents.
D'accord.
Mais l'école n'a pas de limite.
D'accord. Donc, par la société, il n'y a aucune interdiction. C'est pas mal vu, par exemple, pour une fille d'y aller à l'école.
Non, c'est
pas... Ça réglait déjà, cette souci-là.
C'est pas une interdiction, mais sauf qu'il y a certaines difficultés que les femmes qui ont beaucoup étudié rencontrent. C'est difficile de pouvoir se marier.
Ah, OK. Pourquoi?
Parce que les hommes se disent que vous avez tellement beaucoup étudié, beaucoup de diplômes, donc ces femmes ont une certaine galanterie.
Donc, elles ne sont pas soumises.
Elles ne sont pas soumises parce qu'elles se disent que j'ai l'argent, je suis diplômée, donc elle est à la hauteur.
Elles font peur, en fait,
oui,
les femmes diplômées.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a le problème des femmes qui doivent, des jeunes femmes qui doivent arrêter l'école pour se marier? Est-ce que ça, au Congo, c'est un problème comme on le rencontre dans pas mal de pays?
Non, peut-être qu'il y a une exception pour certaines ethnies, mais sinon, non.
Alors paradoxalement, les femmes ont le droit, continuent l'école et ça c'est formidable. Et elles se marient après, mais il ne faut pas qu'elles fassent trop d'études non plus parce qu'après elles ne trouvent pas de mari en fait, si je résume.
Exactement. Mais il y a des femmes aussi qui ne font pas de longues études, qui se précipitent au mariage. Mm-hmm. Donc voilà pourquoi j'ai dit, ça dépend de l'éducation que vous avez reçue des parents. Et c'est leur choix.
Mm-hmm. Ok. Et au niveau de religion, est-ce que religion joue un rôle, par exemple, donner une position à une femme dans la société ? À disons que dans les yeux de religion, une femme doit être comme ça.
Exactement. Mm-hmm. Parce que si on prend la religion des témoins de Jéhovah, mm-hmm. chez nous, les témoins de Jéhovah interdisent les enfants de faire de longues études.
Ok.
Donc, il faut s'arrêter à un certain niveau. Il ne faut pas aller au-delà.
Pour toutes les enfants, garçons, les filles, pour tout ?
Surtout les filles.
Ok. Et c'est quoi le argument ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi ?
Bon, ils disent que tu es une femme, tu ne peux pas avoir trop de diplômes, sinon... Mm-hmm. Tu n'auras pas un mari, sinon les hommes auront peur de toi parce que tu es trop diplômée et mmh. que tu seras à la hauteur par rapport à l'homme, or que la femme doit être en dessous de l'homme.
D'accord.
Donc, il ne faut pas que les diplômes dépassent.
Et il y a certains travaux, par exemple, que tu dis que tu ne peux pas travailler dans ce travail parce qu'en fait, ce n'est pas pour toi, tu es une femme.
Bon, oui, il y a, mmh. y a certaines personnes qui disent qu'il y a des boulots des hommes, mm-hmm. il y a des boulots des femmes, mais mm-hmm. sinon, tel que les témoins de Jéhovah, j'insiste sur ça, mm-hmm. ils ne font pas la politique.
D'accord. Ok, donc pour les femmes, il n'y a pas de politique.
Que ce soit des hommes, que ce soit des hommes, ils ne font pas la politique. Si vous faites la politique, vous serez excommunié de la société, de leur église.
Ah d'accord, donc l'église dit, si tu vas vers politique, bah, tu es éliminé de l'église, quoi.
Exactement.
Ok. Et est-ce qu'il y a un certain genre qui va en contre ? Qu'est-ce qui va arriver ?
Ben si, c'est à vous de choisir. Soit c'est l'église, soit c'est la communauté.
D'accord. Donc, ils ferment la porte, vraiment.
Exactement.
Ok. C'est vraiment... Et ici, depuis que tu es en France, est-ce que tu te trouvais avec les personnes de ton origine, de Congolais ?
Oui, je les vois partout.
D'accord.
Ça parle ma langue. Dès que ça parle, je sais que ça c'est en congolais.
Ok. Et tu as déjà rencontré les familles ? Tu as un peu relation amicale ou pas ?
Oui, on se salue, on se rencontre au Resto du Cœur, dans les marchés.
D'accord.
Si quelqu'un parle ta langue maternelle surtout, tu sais que c'est un frère, il faut les saluer. Il faut...
Ok. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité ici, tu penses ? Depuis qu'ils sont en France, entre vous, qu'est-ce que tu sens ?
Bon, je ne fréquente pas trop les Congolais,
okay.
mais je constate qu'il y a quand même un peu de différence par rapport au pays.
D'accord.
Il y a un peu de différence. Il y a certaines qui ont changé quand même de culture
okay.
par rapport chez nous au pays.
Ok. Et qu'est-ce que tu trouves ? Tu peux donner quelques exemples que tu as vu, les personnes qui ont fait quoi en fait ici en France, différemment ?
Je peux dire que, par exemple, chez nous au pays, on ne sait pas que on ne tutoie pas une personne. Mm-hmm. Il faut vouvoyer.
D'accord.
Mais on arrive ici, on sait qu'on ne peut pas tutoyer, on doit vouvoyer. Donc, certaines cultures qu'on vient apprendre ici qui n'est pas de chez nous.
D'accord. Mais déjà, au niveau de langue, je trouve que c'est facile pour vous. Toutes les Congolaises peuvent parler en français, j'imagine, c'est ça ?
Bon, parce que la majorité de chez nous, une famille... bien instruite, la première langue de leur enfant à la naissance, c'est le français.
Mmh, ok, donc déjà ça aussi...
C'est une ancienne colonie française, le Congo-Brazzaville.
Et c'est pour ça que ça donne beaucoup de chance aussi pour apprendre la culture un peu facilement ou pas ? Tu trouves comment, Alice,
Alors,
ici ?
Je sais pas, du coup...
Tu as beaucoup des élèves. Hein.
Je demanderais plutôt à Laetitia parce que c'est compliqué, parce que ce passé colonial, moi, je ne l'assume pas.
Bien sûr.
Mais voilà, je ne sais pas si du coup, vous, quand vous arrivez en France, est-ce que c'est plus facile de vous intégrer dans la société du fait que vous maîtrisez la langue ou est-ce que vous vous heurtez à des difficultés de culture, quoi, culturelle tout simplement ?
Bon, moi, je trouve qu'un Congolais, un vrai Congolais de Brazzaville, s'adapte facilement en France parce qu'on est né de cette culture française depuis notre pays.
Okay.
On a la culture française parce qu'on a été colonisé par des Français. Mm-hmm. Donc, arrivant en France, il y a quelques compléments, mais on s'adapte facilement.
Après, vous dites voilà, de Brazza, parce que Brazza, c'est la capitale. C'est peut-être pas le cas dans des petits villages, peut-être plus reculés. Mais oui, j'imagine qu'à Brazza, on vit comme à Blois, quoi.
Et quand tu dis que vous êtes né avec cette culture française, mais dis-nous un peu d'exemples personnels, par exemple. Quand tu es arrivé ici à France, qu'est-ce que tu trouvais comme chez toi, en fait?
Bon, quand moi, je suis arrivée en France, je trouve que la vie que je vis en France, c'est à peu près ce que je vivais chez moi. Sauf qu'il y a des différences. Ici, il y a beaucoup de maisons en étage. Les routes sont plus propres que chez moi. Il y a du goudron partout. Mais ce qu'on mange ici, je vois ça dans le supermarché. Si tu as des moyens, tu peux t'en acheter. Le Congolais, c'est toujours bien habillé depuis son pays. Donc, on arrive en France, on s'habille aussi bien. Le Congolais était toujours propre. On arrive ici, on est propre. Donc, c'est certaines cultures qui sont identiques que la France.
D'accord. Et au niveau de culture, on a discuté. Donc, dans la culture congolaise, est-ce que les femmes sont pareilles comme... En fait, au niveau des habits, on a bien compris, mais au niveau des autres comportements, est-ce que c'est pareil comme ici à France, ou tu trouves un peu de différence?
Bon, je trouve que là, il y a un peu de différence. Parce qu'en France, l'homme et la femme, ils contribuent les deux dans un ménage. Donc, quand il y a un ménage, l'homme doit contribuer, la femme aussi. Chez nous, c'est l'homme qui fait tout.
Et pourquoi?
C'est notre culture. L'homme doit s'occuper de sa femme, il doit l'habiller, il doit le nourrir.
Donc l'argent, c'est à partir de lui.
Exactement.
Même si les femmes sont diplômées et qu'elles travaillent.
Exactement, c'est le droit d'un homme de s'occuper de sa femme.
Est-ce que tu trouves que c'est juste ou pas?
Bon, c'est un peu injuste, mais c'est comme ça qu'on a... C'est notre culture, on ne peut pas la changer.
Et si, par exemple, le lendemain, ici à France, tu trouves une Française, par exemple, qui dit qu'on partage ou quelque chose, tu trouves comment ça, en fait?
Ça sera normal parce que je ne suis plus chez moi dans mon pays et que la culture d'ici m'oblige. Quand on dit changement de mentalité, c'est tout ça. Donc, je dois vivre comme une Française. Je dois prendre la culture française.
D'accord. Donc, ça
je vais m'adapter à cela.
D'accord. Et tes enfants sont garçons ou filles qui sont là en France?
Les trois sont des filles.
Les trois sont des filles, ok. Et tu envisages comment sont à venir ici à France?
Pardon?
J'ai dit, tu penses comment, en fait, pour leur actuellement, pour l'avenir, ils ont adapté bien ici à France. Qu'est-ce que tu penses pour tes enfants?
Moi, je trouve que mes enfants s'adaptent très bien parce qu'à l'école, ils ont des bonnes moyennes. Ils ont des 15 de moyenne, des 14 de moyenne. Je suis fière d'eux.
D'accord.
Malgré que des difficultés qu'on a traversées, des difficultés que nous vivons par rapport à d'où nous venons, mais ils tiennent le coup et je suis fière d'elles.
D'accord. Et tu m'as dit qu'ils ont dans différents niveaux, là, en école, collège et lycée, c'est bien ça? Et donc, ça se passe comment, en fait, depuis qu'ils sont arrivés ici? Mentalement, j'ai dit, au niveau d'intégration, parce que souvent, les enfants des immigrants et les réfugiés, ils ont un peu, pas tous s'adaptent dans la même façon. Donc, tes enfants.
Moi, je trouve que mes enfants ont bien intégré la culture française. Parce que d'ailleurs, quand je suis allée voir le professeur de ma fille qui est à l'école primaire, ils ont adapté un système de cours de rattrapage à l'école. Je suis allée le voir parce que ma fille ne faisait pas partie. Je suis allée pour me plaindre pourquoi il m'a dit que ta fille est parmi les meilleurs élèves de la classe et elle n'a pas besoin de ça. Moi, je suis fière. Ça prouve que ma fille est vraiment intégrée et elle n'a pas de difficultés pour ça.
D'accord, bah bravo, vraiment, c'est un grand... Et c'est pareil pour les autres filles en collège et au lycée?
Oui, je trouve que c'est pareil parce que ma fille du lycée, elle arrive à faire 14 forts, 15 de moyenne, c'est déjà beaucoup. Et celle du collège, elle fait 13,99. Elle a un peu de difficultés en anglais, mais je crois qu'elle va se rattraper. Parce que l'histoire de la France, c'est maintenant qu'elle essaie de l'apprendre. Ouais. Donc, c'est pas trop ça, mais ça ira.
D'accord. Ben, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as les élèves de Congolais
Alors non, mais pour la simple et bonne raison que moi, je donne des cours de français.
Ah bah.
Et que du coup, les Congolais parlent français. Donc j'en vois assez peu. Ouais. Et du coup, comme vous avez un bon niveau d'instruction au Congo, il n'y a pas besoin de... Parce que parfois, dans certains pays francophones, africain. L'oral, ça va, mais l'écrit, ça ne va pas. Mais là, comme vous avez tous une instruction, vous allez tous à l'école, mais en fait, il n'y a pas de problème de rattrapage.
D'accord.
Et moi, pour la petite histoire, j'aime beaucoup lire les textes des personnes congolaises que j'ai l'occasion de rencontrer de temps en temps, parce qu'on est sur un niveau de français qui est largement supérieur au nôtre.
J'ai attendu, oui.
Parce que le nôtre, il est très... comment dire la culture anglaise, la culture américaine le pénètre beaucoup. Donc, on a beaucoup, beaucoup de mots anglais. Le niveau de français, que ce soit Congo-Brazza ou Congo-Kinshasa, est souvent supérieur au français que nous, on parle.
Mais tu vois, on a discuté avant par rapport à la barrière de langue pour les certains étrangers. Donc, est-ce que tu trouves que pour certains qui viennent ici déjà avec la langue française, c'est facile? Bien évidemment, c'est facile, mais est-ce que tu trouves que aussi c'est facile au niveau d'intégration, adaptation et au niveau d'intégration professionnelle? Oh, ça reste compliqué. Est-ce que tu as quelques histoires
Non, on en reparlera. Ce qui me chiffonne beaucoup, et bon, Laetitia, alors, comme vous êtes en procédure de demande d'asile, pour l'instant, vous ne pouvez pas travailler. Je ne sais pas si vous connaissez des compatriotes. Moi, malheureusement, ce que je constate, c'est que même des personnes diplômées, avec un bon niveau de français, ben là, on oriente beaucoup les gens vers le ménage. Donc, il faut faire le ménage. Ou alors, aller travailler à la blanchisserie. La blanchisserie, dans des conditions de travail que je vous laisse... Enfin, voilà, des salaires de misère et puis des conditions de travail qui sont difficiles. Hein. Quelques stagiaires m'ont raconté un petit peu. Et puis sinon, aide ASH. Je ne sais plus. Enfin, aide à l'hôpital, c'est-à-dire. Mais ça reste beaucoup le ménage, des tâches subalternes. Et je suis fâchée, beaucoup très fâchée de ça. Et la préfecture ne reconnaît pas toujours les diplômes. Je me suis retrouvée face à un couple, c'était des personnes congolaises, un monsieur, une dame qui était diplômée en Europe, en France, qui avait un super niveau de diplôme, et la préfecture leur demandait de venir passer un niveau A2. Autant vous dire que c'est humiliant. C'est humiliant.
Bien sûr.
Et moi, j'étais extrêmement gênée. Je me suis excusée. En même temps, mais ils m'ont dit, vous en faites pas, on est habitués. Voilà.
Vous voyez, c'est habitué.
On est habitué.
Oui, j'aimerais aussi poser cette question ici à un migrant et les réfugiés. Je trouve que quand il rentre ici, il a cette mentalité, en fait. Il a dit, si on y va là-bas, c'est toujours avec les ménages.
J'ai le cas d'un ami burkinabé, donc du Burkina Faso. Encore une ex-colonie française, donc où tout le monde parle très très bien français, artiste, voilà. Quand il s'est pointé en France, il a fallu qu'il passe les tests de français. On lui a fait passer un diplôme de plombier. Et voilà, il l'a vécu comme une humiliation. Aujourd'hui, c'est un artiste qui expose dans une galerie parisienne et qui vend super bien. Mais c'est juste ça. Et lui, du coup, le résultat, c'est qu'il est assez fâché contre la France.
Est-ce que tu trouves vraiment que c'est la système française? Pourquoi
on n'assume pas je suis la porte-parole de personne, mon point de vue. On a fait notre richesse. La France a fait sa richesse sur les colonies africaines. C'est très clair. Sur le commerce triangulaire, il faut le dire, les villes de Bordeaux et de Nantes se sont enrichies en vendant des esclaves. On s'est enrichi en pillant le sol africain. Et aujourd'hui, il y a des entreprises comme Total ou comme le groupe Bolloré qui possèdent des ports et qui sont chargés, qui ont des concessions sur des puits de pétrole en Afrique. Tout ça. Et donc, nous, on se glorifie d'avoir des super grosses boîtes. On a pillé le sol africain. Et maintenant, quand des Africains... On n'est pas très clair non plus sur la façon dont on a laissé la démocratie s'installer en Afrique. La France a fait a provoqué des coups d'État en Afrique pour éviter des montées des installations de démocrates. C'est le cas de Thomas Sankara au Burkina Faso. Thomas Sankara, c'était un démocrate qui a voulu s'installer. Il y a eu un coup d'État, les Français étaient derrière. C'est prouvé. Parce qu'il a toujours fallu qu'on garde, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire, on est parti, mais c'est quand même notre précaré. Donc aujourd'hui, les Français ne comprennent pas ce que les Russes veulent s'installer et les Chinois veulent s'installer. Ils disent, ah, c'est pas bien, vous êtes en train de vous faire coloniser. Bah, les gars, c'est ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années. Voilà. Et aujourd'hui, quand les habitants de ces colonies veulent venir en France, parce que c'est peut-être pas à cause de la France, donc j'ai eu une discussion assez intéressante avec un Africain qui m'a dit, c'est à nous, c'est pas la France qui est coupable de tout en Afrique. Et je trouve ça super intéressant. Mais aujourd'hui, Eh ben non, vous n'avez pas le droit de venir, vous n'avez pas le droit d'avoir des visas parce que vous pourriez vous installer en France. Mais on s'est installé combien de temps, nous ?
Mmh.
On a tout pompé, mmh. C'est encore Total qui est là-bas, c'est encore Bolloré qui est là-bas.
Mmh.
Mais par contre, s'il vous plaît, restez chez vous.
Ouais.
C'est un système.
Donc, c'est vraiment un système français.
Bien sûr.
Ouais, et donc, toujours déjà dans le territoire français, quand tout vient, donc c'est encore système français qui dit non.
Bien sûr. Et puis, bon, de ça, moi, je parle, là, c'est plutôt un fonctionnement politique.
Mm-hmm.
Et puis, c'est sans parler du racisme.
Okay,
alors, du racisme, je veux dire, des Français. Alors là, j'ose espérer que c'est pas qu'au niveau politique, enfin, si, y a un parti raciste. Et qui monte, c'est pas un hasard. Mais voilà, je vous cache pas qu'à la campagne, je pense que c'est un petit peu plus compliqué.
Mm-hmm.
Laetitia, je ne sais pas si vous avez été témoin ou victime de ça depuis que vous êtes en France. À Blois, on va dire, on est dans une ville, mais voilà. Mais il y a un problème. Ça existe. Et moi, j'en parle avec mes stagiaires et ils me le disent et ils sont victimes à la préfecture.
À la préfecture.
Mais oui.
Et dis-nous, c'est quoi le souci avec les préfectures ?
C'est qu'ils sont mal reçus. C'est qu'on leur parle mal.
Ah oui.
C'est qu'on leur dit, en gros, vous êtes, c'est déjà bien, vous êtes là.
Donc partez-vous, quoi. En direct, mais partez-vous, c'est ça.
Et c'est vrai que là, on en a déjà parlé, mais les lois françaises ne sont pas vraiment en faveur d'un accueil inconditionnel pour les populations étrangères. Donc, moi, c'est là que ça me fâche. C'est là que qu'on a pompé tout ce qu'on a pu pomper en Afrique, et je pense qu'on continue. Mais par contre, les conséquences, s'il y a des conséquences économiques, on ne les assume pas, quoi.
Non. Et qu'est-ce que, cette question, si tu peux nous répondre, est-ce que tu as trouvé dans une condition que, vis-à-vis de toi, par rapport à ton couleur de ton peau, ou, en disant que, un genre de racisme, est-ce que tu as vécu ici à France ou pas ?
Bon, malheureusement, non, parce que quand je suis arrivée,
heureusement.
J'ai fait à peine 5 mois, je suis tombée malade,
d'accord.
J'ai fait un cancer, donc du coup, j'ai été guérie. Et voilà, et c'est là que j'essaie de me remettre encore et tout, donc...
D'accord. Mais tu vois, Alice, qu'est-ce que je trouve que déjà, au niveau système santé... Ça se passe souvent bien, que c'est très important. En fait, je pense que le système de santé de France, c'est vraiment le système accueillant ainsi. Comme Laetitia nous raconterait, il a dit qu'il y a un suivi assez correct. Et aussi, pareil, j'ai beaucoup d'immigrants qui parlent de ça. Et vraiment, je trouve que déjà, cette côté, c'est assez bien. Et au niveau du côté social, Laetitia, raconte-nous, s'il te plaît. Tu m'as dit parler aussi par rapport à ça. Tu as dit que tu étais très bien accueillie.
Si je parle de moi, je trouve que j'ai été bien accueillie.
D'accord.
Parce qu'au moment où je suis arrivée en France en octobre, je suis tombée malade en mars.
D'accord.
Donc, j'avais des enfants mineurs, 3 enfants mineurs, qui avaient encore besoin d'un soutien. Et j'ai eu la chance d'avoir ce soutien-là vis-à-vis des assistantes sociales, des femmes de ménage qui passent à la maison pour nous aider et tout. Pour moi, je trouve que même dans mon pays, ça, c'est pas donné. Donc, pour ça, chapeau la France.
Ok, ben, bravo. Mais Alice, je pose cette question à toi aussi parce que parfois, j'attends que tu vois, Laetitia, c'est quelqu'un qui a déjà assez un caractère fort. J'ai dit ça parce que c'est comme ça. Mais il y a certains gens qui viennent, qui n'ont pas assez cette caractère. On n'est tous pas pareils. Nos niveaux d'apprendre, on est différents. L'éducation était différente. Est-ce que tu trouves qu'à ces niveaux, déjà les structures sociales, est-ce qu'ils sont vraiment égales vis-à-vis de ces jours-là ou pas ? Parce qu'en tant qu'humain, si on travaille avec Laetitia, c'est facile. Si je suis dans le boulot de social, c'est facile. Mais si je travaille avec une femme qui vient d'un endroit qui n'a jamais vécu même dans la ville, c'est un peu reste difficile. Est-ce que tu te trouvais, Sarah, tu as rencontré certains ?
Alors, moi, je pense que le soutien, il est le même pour tout le monde. Je dirais que c'est un peu comme à France Travail. Pour quelqu'un, un Français. Non, voilà.
Ouais.
Quelqu'un qui est diplômé, le conseiller France Travail va lui dire, écoutez, vous êtes en mesure de vous débrouiller tout seul. C'est pas moi qui vais vous aider. Je vous le dis, ça m'est arrivé. Et puis, quelqu'un qui a vraiment besoin, cette personne, on va un peu plus la prendre en charge.
D'accord.
Parce qu'on sait que toute seule, elle va pas y arriver.
Je
pense que les structures sociales, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, on va plus la soutenir parce qu'on sait que toute seule, ça va être compliqué.
Ouais.
Quelqu'un qui est déjà un peu autonome, eh ben, on va être là, comme une béquille. Mais disons qu'on sait que la personne, elle a déjà cette capacité. Après, j'ai l'impression, quand même, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, que pour quitter son pays, pour oser quitter son pays, partir si loin de chez soi, sans visa, il faut déjà avoir un sacré caractère. Et je pense que c'est pas n'importe qui fait ça. Et j'ai l'impression que les personnes qui arrivent ici sont déjà des personnes qui ont vécu tellement de choses chez elles. Parce qu'on décide pas de partir comme ça en claquant des dents, en se disant tiens, je vais aller voir comment c'est la Tour Eiffel.
Non.
Donc je pense que c'est des personnes qui ont vécu déjà tellement de choses chez elles, tellement de choses sur leur parcours, que finalement, une fois arrivées là, je dis pas que c'est facile, loin de là. Parfois, c'est compliqué justement parce que vous finissez votre combat et qui maintenant il faut s'insérer durablement. Mais c'est pas n'importe qui. Voilà. Moi, je voudrais bien poser des questions à tous ces gens qui veulent pas des étrangers. Ben, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes vous capable de partir, de traverser ça,
c'est ça. De quitter tout
et on en reparle.
C'est ça.
Donc voilà. Moi, je trouve qu'on a déjà affaire à des personnes. Battante, comme vous disiez, Laetitia.
Ben, j'aimerais bien poser cette question aussi encore à toi, Alice, parce que tu vois, quand tu dis poser cette question-là, est-ce que moi, donc, comme Européen, toi, est-ce que tu penses que les Européens, ils sont capables de faire tout ça, par exemple, disons que je prends tout et...
Capables, tu veux dire
Oui, tu dis, est-ce qu'ils ont assez fort là? Et si oui, ou si non?
Non.
Tu peux donner les raisons, s'il te plaît.
Alors... Je parle que pour moi, encore une fois, je suis la porte-parole de personne, je représente personne. Moi, je pense qu'on n'en est pas capable parce que, et on a cette chance, on a un état-providence. Donc, depuis qu'on est enfant, on est soutenu, on est aidé, on a des allocations quand ça ne va pas, on a où se tourner quand ça ne va pas. On a des structures familiales qui nous soutiennent. Et puis, quand il n'y a pas les structures familiales, il y a des foyers. Je ne dis pas que c'est parfait, attention. Du coup, je pense que si un jour on doit partir du jour au lendemain suite à de la maltraitance ou et ben on sera un peu perdu.
Bien sûr. C'est ça. Je trouve aussi ça, et en plus je pense que c'est depuis maintenant très long que c'est surtout les personnes d'Asie, d'Afrique, souvent qui viennent, qui se maigrent. Mais les Européens, ils ont vraiment pris cette habitude de s'installer, en fait.
Mais bien sûr.
Ils ont bien...
Et parce qu'on a le confort.
C'est ça.
Parce qu'on a le confort, on a un foyer, une maison, un travail.
C'est ça.
On ne se rend pas compte.
Non.
De commencer ailleurs.
Exactement. Et surtout quand j'habite dans une petite village. Et donc, dans cette village, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas la deuxième culture, en fait. Déjà, si ça existe dans le monde, en fait. Et il y a certains qui oui, ça aussi dépend de leur niveau des études, ça dépend aussi du niveau de son situation sociale. Mais quand même, oui, il y a certains qui, parce qu'ils sont assez confortables dans leur pays, que ça n'intéresse pas. En fait... J'ai attendu par rapport aux situations politiques. Normalement, tout le monde, ils ont... Pas tout le monde, mais voilà. Que j'aimerais vous partager ces situations, que pas tout le monde, ils ont au courant de situations politiques. Par exemple, que si tu parles avec quelqu'un au niveau de... qu'est-ce qui se passe là actuellement dans Russie ou dans Ukraine ou dans Gaza ou Israël, bah, il dit, est-ce que ça se passe quelque chose là-bas? Je trouve ça un peu comme ça. Mais oui, c'est un différent confort de vie.
Oui, oui. Et puis, alors, l'Europe et la France est quand même persuadée un peu d'être le centre du monde. Enfin, alors, il y a quand même ce truc de continent riche. Donc, en fait, on s'assoit un peu là-dessus. Et oui, oui, on ne s'intéresse pas. Il y a une guerre terrible en ce moment qui sévit au Soudan.
Ouais. Personne, ouais.
Voilà, il y a alors c'est pas le Congo Brazza, mais c'est la RDC qui vit un conflit depuis des années au Nord Kivu. Bah, ouais. Voilà, je pense qu'il y a pas grand monde qui connaisse tout ça, qui connaît tout ça, pardon. Ouais, on est super auto-centré.
Bien sûr.
Mais actuellement aussi, le Congo Brazza vit un véritable conflit où on tue les jeunes garçons.
C'est pour quelle raison?
Il y a un phénomène Kuluna qui existe actuellement au Congo-Brazzaville. On tue les enfants, les jeunes garçons. Parfois, vous avez des tatouages, on vous confond un Kuluna. Parfois, vous avez des locks, on vous plutôt ça look et tout. On vous prend, on vous tue, c'est sérieux.
Parce que, juste pour... parce qu'ils ne correspondent pas au schéma traditionnel?
Aux normes?
Aux normes? Non, en fait, défaut de visage, par exemple...
C'est quoi, des visages?
Je marche comme un...
Différent, quoi.
Voilà. Défaut de démarche, on vous prend, on vous tue, parce que vous avez des tatouages.
Et c'est qui tatoue, en fait?
Ben, y a un phénomène Kuluna qui existe au Congo. C'est organisé par la DSP. Donc, actuellement, c'est très compliqué au Congo-Brazzaville. Il y a des tirs aussi. Donc...
C'est qui la DSP?
La DSP, c'est la garde présidentielle.
Donc, ça veut dire que c'est un organe d'État?
Ouais.
C'est pas des milices
Non.
Ouais. C'est avoir les terreurs dans la société, quoi, en fait. Donc, on va passer vers le morceau de musique, je pense, Alice. Et c'est Sidik Chebab. Donc, c'est morceau de musique afghan.
راشه چه سپر لیده شم گل زرد شم گل زرد شم راشه چه ده باده و رسه یارد شم یارد شم راشه چه سپر لیده شم گل زرد شم گل زرد شم راشه چه ده باده و رسه یارد شم یارد شم ساپا پاکه منه محبت دیار ساپا پاکه منه
Les voix de femmes sur Studio Zeuf. Laetitia, est-ce que tu aimerais une musique? Tu aimes quel genre de musique en fait?
J'aime la musique congolaise.
Donc, ça reste congolaise. Et toi, Alice, tu es un peu ouvert ou...
Alors oui, et moi, ça m'a intriguée, oui. Parce qu'évidemment, je ne comprends pas un mot. j'ai vu le clip et ça se passe sur une plage, mais ça m'a intriguée parce qu'il n'y a pas la mer en Afghanistan. et en plus, oui. Les femmes n'ont pas de foulard. Alors, je vais te dire ce que j'ai ressenti. Moi, ça m'a intriguée, j'aurais voulu savoir où c'était filmé et qu'est-ce que raconte ce chanteur. Ouais. Et par contre, un truc qui m'a chiffonné, c'est qu'il y a des femmes fort belles dans le clip, qui sourient, qui sont maquillées et qui tapent des mains, mais un peu comme si le chanteur était un peu un dieu. Enfin, il y a ce côté-là qui m'a un peu...
un peu afghan.
je me suis dit, c'est un peu afghan. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce titre, ce chanteur?
En fait, c'est une chanson. Vraiment, c'est par rapport à ces chansons, en fait, qui parlent d'une fille que, tu as pris mon cœur. C'est un truc amoureux, quoi. Donc, c'était un verre.
D'accord.
Donc, c'était vraiment de dire que tu as comment assez joli et choses comme ça. Mais en fait, au niveau de clip, c'est pas en Afghanistan. Comme tu as bien marqué, c'est en Europe, je ne sais pas c'est où.
Moi, j'avais l'impression de voir la Bretagne, en fait. Mais après, la côte me rappelait la Bretagne. Et je me suis dit que forcément, ça devait être un chanteur exilé. Parce que, on n'a pas le droit de chanter en Afghanistan, me semble-t-il. Ouais. Et deux, de voir des femmes, les cheveux découverts et les cheveux longs. Je trouvais que c'était hyper symbolique rapport à cet enfermement des femmes en Afghanistan.
C'est en tous exilés, en fait. Ils ont quitté Afghanistan depuis 10 années, quoi. C'est pas récemment non plus. Donc, ils ont fait le concert dans toute l'Europe. Donc, ça se passe bien, là. Actuellement, les personnes qu'ils ont exilées, là, ce que je trouve, ils ont trouvé à chaque cas pour lui-même une association, un groupe dont ils se trouvent bien entre eux. Donc, ici, ils savent bien aussi donc, de ne pas perdre leur culture quand même, mais un peu mélange et mix.
Mais c'est fondamental, bien sûr.
J'ai une question par rapport à ça, donc ne pas perdre leur culture. Donc, comme Alice, il a parlé de ici qu'il y a un peu de discrimination et choses comme ça, et tu as parlé que tu n'as pas vécu ça. Mais à ton avis, par exemple, qu'est-ce que tu peux amener comme richesse pour la France, par exemple, comme une femme congolaise?
Ce que je peux amener pour la France comme une femme congolaise.
Comme richesse de culture, par exemple, qu'est-ce que tu peux donner, par exemple?
Ce que je peux donner à la France, c'est le peu de ma connaissance.
Voilà. C'est ça le plus important et intéressant. Et qu'est-ce que tu peux apprendre de la France?
Ce que je peux apprendre de la France, c'est... Gère leur social, gère la façon de faire en France. J'aime leur façon de ne pas avoir la discrimination, l'égalité. Et surtout leur devise, ça me plaît beaucoup parce que ça montre l'amour.
Et qu'est-ce que tu penses, Alice?
Moi, ça me fait plaisir. Je suis ravie que Laetitia, tu dises que tu aimes notre devise. J'aimerais juste que cette devise, elle se maintienne les prochaines années.
Ouais.
Voilà. Et honnêtement, je suis super... Voilà, moi, ça me fait plaisir qu'on puisse s'y référer. Je voudrais juste qu'on puisse nous-mêmes encore s'y référer longtemps.
C'est vrai. On va finir notre émission là, avec cette richesse de culture. Richesse d'informations et merci pour être là. C'est et à bientôt.
Merci à toi, Lisa. Au mois prochain.
Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.